Bonsoir. Clôture le week-end dernier à Kinshasa des assises sur le coulage des recettes publiques. Il s'agit des recettes qui échappent au trésor public à cause notamment de la fraude et l'évasion fiscale, les détournements, la corruption et le manque de performance des agents chargés de la mobilisation des recettes. Comment analyser l'organisation de ces assises? Que faire pour combattre la fraude et autres fuites des recettes publiques en RDC? Nous recevons comme invité Paulin Oudiane, ministre provincial de ressources naturelles en province orientale. Monsieur le ministre, bonsoir.
Monsieur le ministre Oudiane. Bonsoir, Alain, et bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci. Honorable André Massoumbou, député national de l'opposition et cadre du parti politique Renaissance du Congo RECO, il est membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Honorable Massoumbou, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Améliorer l'efficacité et la rentabilité des services mobilisateurs des recettes, assainir l'environnement fiscal des entreprises, lutter contre les fraudes fiscales et douanières, tels sont entre autres les objectifs des assises nationales sur les coulages des recettes publiques qui se sont tenues ici à Kinshasa du 2 au 4 mai dernier. Organisé par le ministère du Budget, ce forum a réuni les régies financières, la Fédération des entreprises du Congo, la société civile et le monde scientifique. Je vous propose d'écouter à cet effet Daniel Mokoko Samba, vice-premier ministre et ministre du Budget, dans cet extrait recueilli par Paul Matendo.
Le but de ces assises n'est pas de fiscaliser davantage l'économie nationale, mais de proposer des stratégies de récupération des recettes qui auraient dû entrer dans les caisses du Trésor et qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Le gouvernement tient en effet à mettre en place un système fiscal simple et transparent qui poussera tous les agents économiques à s'acquitter de leurs obligations financières envers l'État, qui découragera la fraude et l'évasion fiscale, qui incitera toutes les couches de la société ainsi que les agents commis aux impôts et taxes à plus de civisme fiscal et d'intégrité, qui réduira la corruption, limitera les régimes préférentiels et les exonérations inutiles et assurera la promotion de la coopération entre les administrations fiscales.
Monsieur le ministre Paulin Oudiane, je rappelle que vous êtes ministre provincial des ressources naturelles en province orientale. Pour commencer, comment se sont déroulées ces assises, dans quelle ambiance?
Merci beaucoup, mon frère Alain. Avant tout, je tiens à saluer tous mes frères qui sont sur le plateau et également tous les auditeurs de la Radio Capi. Ces assises se sont déroulées dans un climat très apaisé. Tous les participants ont répondu à cet appel ou à cette invitation. Et les travaux au niveau des Grands Hôtels était vraiment dans un climat un climat amical et fraternel, et tout le monde était animé des sentiments de l'intérêt général, c'est-à-dire de lutter pour trouver la solution au problème de coulage des recettes publiques de notre pays. Et je tiens ici à féliciter les intervenants des provinces qui étaient là présents, et chacun a pu dégager les mots qui rongent notre administration fiscale ou les régies fiscales aux régies financières de notre pays. Donc, c'était vraiment un travail très, très intéressant.
Monsieur le ministre, dans son discours, le premier ministre Matata Ponyo a déclaré, je cite, « L'État congolais ne mobilise pas suffisamment de recettes fiscales et donc ne se dote pas des moyens conséquents pour la réalisation de sa politique. » N'est-ce pas un aveu d'échec du premier ministre?
Bon, je crois qu'il ne s'agit pas d'un aveu d'échec, mais il s'agit plutôt de questions de responsabilité. Donc, il faut s'assumer devant le peuple congolais. Le Premier ministre, avec son gouvernement, ils ont trouvé une situation que vous connaissez très bien, une situation déplorable, où dans notre pays, tout le monde se lamente, la population se lamente. Pourquoi le gouvernement doit présenter chaque fois un budget qui ne répond pas aux attentes de la population? Et tout le monde constate également que ceux qui sont dans des régies financières, ces gens-là sont riches, tandis que l'État lui-même est pauvre. D'où il fallait donc trouver la solution à ces problèmes en organisant ces assises, parce que ce n'est pas un problème du gouvernement seul, mais c'est un problème qui concerne tous les Congolais, où donc chacun, là où il est, il doit lutter pour que l'État congolais soit réellement un État fort, et l'État ne peut être fort que si cet État-là a des moyens. Et les moyens de l'État proviennent de recettes fiscales et douanières, parce que l'État lui-même n'est pas un économiste, il n'a pas une entreprise à lui, mais il doit récolter des impôts, des taxes, des redevances pour faire face aux différentes charges publiques qui sont devant lui. Et l'État également a un programme. Le gouvernement congolais a un programme, ce gouvernement a un programme présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Pour que ce programme soit concrétisé, il faut trouver des ressources nécessaires, donc des ressources financières. C'est ce que le gouvernement a voulu faire en décourageant ceux qui croient qu'ils sont plus forts que l'État, à les décourager de façon que l'État congolais puisse mettre fin aux différentes pratiques que nous décrions tous les jours. Parce que l'État congolais qui est là, et la population également qui est là, tout le monde sait que non, ça ne va pas au Congo, pas des recettes conséquentes, le projet, les budgets ne sont toujours pas réalisés, faute des moyens. Qu'allons-nous faire à ce moment? Il faut nous mettre d'accord, il faut nous mettre ensemble pour décrier ce qui est à décrier et prendre les dispositions pour lutter contre les fléaux qui guettent la République. Parce que l'absence de l'argent, c'est un danger public.
Monsieur le ministre, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
À moi, celui-ci, moi, à partir de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Ces assises n'étaient qu'une distraction et une simple formalité pour le peuple congolais. Il y a toujours vécu d'autres de César et rien n'a changé. Tout ce que l'on a des recettes publiques sont au feu des institutions et détiennent de hautes responsabilités.
Distraction et simple formalité, monsieur le ministre, on a connu plusieurs autres assises finalement qui n'ont rien produit, n'est-ce pas un atelier de plus ou de trop?
Non, je crois que je comprends très bien mon compatriote. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, cette personne-là a passé beaucoup de temps dans l'hôpital, même si on les soigne et que sa maladie est complètement guérie. Cette personne-là, si vous le voyez physiquement, vous allez dire que non, cette personne n'est pas guérie, donc cette personne est encore malade. Et tout simplement parce que la personne a passé beaucoup de temps dans le centre hospitalier pour être soignée. Donc l'État congolais actuel a tellement de problèmes. Nous avons vécu dans un système qui a permis que nous soyons par terre et la population a du mal à croire au changement. Mais tout de même, il y a les changements. Les changements s'opèrent. Et cela ne peut pas être capté par tout le monde à un clin d'œil. Donc, ces assises, je crois que c'était très, 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 très important parce que nous devons nous dire des vérités. Merci. Pour aller de l'avant. Et cette vérité ou ces vérités émanent du gouvernement et de la population également, pour dire que non, ici ça ne va pas, qu'allons-nous faire, mettez-nous d'accord pour rompre avec ce système.
Honorable André Massoumbou Baya, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Renaissance du Congo RECO. Vous êtes membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le ministre Odiane, il est ministre provincial en province orientale. Il dit que ces assises étaient importantes, on devrait se réunir, se dire la vérité en face. Comment vous avez accueilli l'organisation de ce forum?
Eh bien, écoutez, d'une manière générale, c'est tout à fait normal que le gouvernement puisse nécessairement tenir des ateliers internes pour essayer de dynamiser le pays à ce qui concerne les objectifs de son budget. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que nous, en notre qualité d'autorité budgétaire, nous avons fixé au gouvernement, donc nous avons déterminé un budget qu'ils doivent réaliser au cours de l'année 2013. Et comme vous le savez, notre budget s'élève actuellement à 7 milliards à peu près de dollars, et dont 5 milliards en interne. Mais quand on voit les réalisations réelles, c'est que le gouvernement, quand bien même pour donner des objectifs de réaliser 5 milliards en interne, ben ils arrivent jamais à atteindre les objectifs. Ils arrivent à faire entre 50 à 55% de réalisation. Et donc, là, on peut dire qu'il y a, au niveau interne du gouvernement, une certaine désorganisation. Et alors, quand le gouvernement prend des décisions pour essayer de s'organiser avec les différents services, que ce soit la DGI, que ce soit la douane, le DGDA, et que ce soit l'autre service de redevance des Gérades, eh bien, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir, monsieur le journaliste, que le pays, quel est son PIB, parce que en fait, la pression fiscale qui est tirée au niveau de notre budget est de 29,5%. Et alors que dans d'autres pays, la pression fiscale va jusqu'à 44-45%. Et d'ailleurs, quand vous comparez notre budget par rapport aux pays voisins, bien, vous constaterez que même le pays qui a une superficie assez réduite réalise un budget supérieur, par exemple le Congo-Brazza, qui est à 10 milliards, pendant que nous sommes à 5 milliards en interne. Donc, les objectifs, c'est de pouvoir chercher les recettes là où elles se cachent. Je vais vous dire, d'une manière générale, par exemple, le secteur minier. Dans le secteur minier, eh bien, le pays ne réalise presque rien du tout sur le plan économique. Alors que vous savez très bien que dans les années antérieures, la GECAMINE contribuait pour 70% dans le budget de l'État. Aujourd'hui, tout depuis 10 ans que les mining sont au Katanga, mais le pays ne reçoit absolument rien du tout de significatif. Dans le secteur pétrolier, le pays produit aujourd'hui 25 000 barils au niveau des côtes ouest du pays. Eh bien, il faudrait que nous fassions un effort pour pouvoir augmenter ces barrages, cette production du secteur qui peut être utile pour le pays.
Alors, sans vous arracher la parole, honorable, puisque vous l'avez toujours, je vous la redonne tout à l'heure, pour vous, quelles sont les véritables causes de toutes ces pertes, des fuites, des recettes qui échappent au trésor public? Quelles sont les causes?
Ben, la première des choses, c'est que le premier des causes, c'est que le gouvernement, notamment le premier ministre, ne doit pas s'asseoir seulement dans son bureau. Il faut que ces ministres travaillent, qu'ils aillent dans les différents régies, suivre et mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour leur permettre de pouvoir relever les niveaux. Et ceux qui sont comme directeurs généraux dans ces régies financières doivent à leur tour contrôler régulièrement leurs agents dans les différents secteurs. Parce que quand vous voyez, comme l'a dit le ministre Paulin Odiane, c'est que quand vous voyez les trains de vie que mènent les administratifs, ceux qui travaillent dans ces régies financières, eh bien, ils ont un train de vie par rapport à leur situation plus élevée que certains ministres, même dans la ville de Kinshasa. Eh bien, il y a lieu donc de pouvoir contrôler correctement la collecte de ces recettes-là.
Alors, donc, si je vous comprends, il y a à la fois un problème managérial et un problème d'homme.
Il y a un problème managérial, un problème d'hommes, et surtout, dans le négociation, c'est-à-dire les contrats que la République doit signer avec nos partenaires étrangers, les investisseurs étrangers, il faut qu'il y ait une certaine clarté. Je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, que en matière de mines, on réduisait 60% de réduction parce que nos mines n'étaient pas, les taux d'humidité étaient de 60%. Donc quand on exportait 100 tonnes, on comptait 40 tonnes. Et nous avons dit non au niveau du Parlement. Il faudrait maintenant que on puisse nécessairement réduire ces taux-là à 20%.
Nous allons prendre pour vous, honorable, cette réaction qui nous vient de Bounia, en province orientale.
Au sujet de la problématique de la gestion des administrations...
Voilà, je disais que nous allons prendre pour l'honorable Masumbu cette réaction qui nous vient de Bounia, en province orientale.
Benoît Chukabo Bassissa, en district de Rituri, dans la ville de Bounia, en province orientale. En République démocratique du Congo, le détournement, la fraude, l'évasion fiscale sont malheureusement des valeurs à travers des systèmes organisés du sommet à la base. Toutes les bonnes théories, même les affiches pour combattre les fuites des recettes ne serviront à rien tant que l'impunité règne.
Réaction honorable.
Ben, je suis tout à fait d'accord. Il faut que la justice joue aussi son rôle dans tout ce que l'auditeur vient de dire. Absolument. Si on veut combattre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, la corruption, le détournement, il faudrait alors que les institutions de justice soient nécessairement valorisées et motivées et en cas de fraude, nécessairement rétrocédées s'ils découvrent qu'il y a eu vraiment évasion fiscale.
Nous allons revenir sur les résolutions, les solutions dans la deuxième partie de l'émission avec force détail. Alki Tengue, vous êtes analyste économique et stratège. Parmi les causes dans son discours, le Premier ministre a notamment cité, a dit, je cite, « Dans un système fiscal déclaratif comme le nôtre, les données devant servir au calcul des droits sont tributaires du bon vouloir des opérateurs économiques. » On a certainement un véritable problème avec les chiffres aussi.
Merci beaucoup Alain, mais je voudrais avant de pouvoir répondre à votre question, dire un mot à notre frère Bissimwa et à travers lui aux autres Congolais. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Cette République nous appartient à égale distance. Il ne faut surtout pas penser que c'est une question des politiques. Ils sont une partie de notre communauté. Ils sont une émanation de notre population. Et donc, ceci dit, je voudrais quand même répondre à votre question, la question des chiffres. En République démocratique du Congo, les chiffres sont sur papier. Et quand ils sont sur papier, ça veut dire qu'ils ne sont qu'en présence de celui qui a le papier devant lui. Le monde entier est devenu numérique. Les chiffres, ils sont partagés, ils sont croisés, ils sont interprétés. Le gros problème de notre pays, c'est que l'État est illettré. L'État est resté au 19e, au 20e siècle. L'État ne s'est pas doté des équipements qu'il faut pour travailler. Et ça, dans toutes ces institutions, très malheureusement. Mais je voudrais faire un petit rappel. Lorsque Kengo était Premier ministre, son plus grand budget était de 550 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons 7 milliards de dollars. C'est à peu près 14 fois plus. À se poser la question de savoir comment on pouvait gérer cette république avec 550 millions de dollars. La réponse est simple. On ne l'a géré tout simplement pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre le régime de Mobutu et les régimes d'aujourd'hui? Deux choses. La première, c'est un incident de parcours politique, la FDL, qui démontre à tout le monde qu'avec les guerres, on peut défenestrer un pouvoir. Et du coup, il y a un besoin de prise en charge globale de toute la partie du pays qui n'était jamais prise en charge. Deuxième, c'est un fléau à trois pieds. Il y a la radio Okapi qui aujourd'hui donne les informations sur toute l'étendue de la République. Il y a le GSM qui permet aux gens de pouvoir communiquer de manière intensive dans la journée. Et troisièmement, il y a Internet. Les gens regardent ce qui se passe dans le monde entier. Et du coup, la gestion du pays a d'autres défis que ceux du passé. Il faut prendre en charge toute l'étendue de la République. Il faut donner des réponses à tous les citoyens à la fois. Et l'équation devient tout simplement impossible. Maintenant, lorsque vous regardez bien la question que le gouvernement pose aujourd'hui, c'est une question qui relève du courage intellectuel. Étant donné que avec 550 millions de dollars, avec 3 milliards de dollars, avec 7 milliards de dollars, on ne peut pas gérer un pays de la taille de la République démocratique du Congo avec 70 millions de personnes, il faut donc se poser les bonnes questions. De combien d'argent on a besoin? Et quand on se pose cette question, même le bon sens, qui nous compare aux autres pays aux alentours de nous, nous dit que nous devons multiplier par 20, par 30, par 40 les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour être en mesure de donner une véritable réponse publique aux citoyens.
Sans vous couper, Al-Kitenge, le Premier ministre a déclaré dans son discours que la RDC avait comme objectif de mobiliser environ 48 milliards de dollars de francs congolais d'ici 2016.
Je ne sais pas s'il le disait sur les 4 ans ou sur l'année, mais je voudrais vous donner un indicateur. Le Congo-Brazzaville, c'est entre 8 milliards et 10 milliards de dollars de budget annuel. Mais ils ne sont que 3 millions de personnes, multipliés par 20 ou 22 pour être en mesure d'avoir la proportion que nous devrions avoir ici, pour avoir plus ou moins ce que nous devrions avoir comme budget pour être en mesure d'avoir la même puissance financière que le Congo-Brazzaville. L'Angola, ils ne sont que 15 millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont à 50 milliards de dollars. Multiplié par 4,2 pour avoir plus ou moins la puissance financière que nous devrions avoir ici, pour être en mesure de résister avec nos voisins. Vous vous rendez bien compte que nous sommes dans une équation impossible. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Et que le gouvernement ait eu le courage de mettre la question sur la table est quelque chose d'intellectuellement honnête et c'est une très bonne chose. Parce que ça permet qu'on se regarde en face et qu'on se dise les vérités. On ne peut pas gérer la ville de Kinshasa et particulièrement la commune de la Gombe et penser qu'on est en train de donner des réponses à la République. Aujourd'hui, la République gronde. Nous avons 60 groupes armés. Ça impose donc au gouvernement aujourd'hui, quel qu'il soit, de se rendre compte qu'il doit donner des réponses à tout le monde. Et pour donner des réponses à tout le monde, il faudrait que tout le monde contribue à l'assiette. Et ça donne donc un besoin de réinvention de notre nation et de notre État, qui n'existe pas. Parce que, vous vous rendez bien compte, si vous regardez la présence physique de l'État, le déploiement de l'État sur l'étendue de la République, l'État est complètement absent. C'est donc un problème réel auquel il faut donner des réponses. Si vous regardez la présence de la poste, qui est un des éléments de gestion de l'administration publique est complètement par terre, la poste est complètement par terre. Il ne faut pas croire qu'on peut payer des gens 50 dollars et espérer qu'ils travaillent bien. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut les mettre dans des conditions où ils ne privatisent pas leur poste, aussi bien la fonction publique, la police et l'armée. Et ça, c'est des questions qui dépassent les questions politiques ou les couleurs politiques. C'est des questions nationales extrêmement sérieuses qui demandent qu'on s'arrête et qu'on en parle. Et qu'on se soit arrêté pour en parler dans le cadre du coulage et donc de l'évasion des recettes de l'État est quelque chose de bien.
Monsieur le ministre Paulin Odiane, vous venez de suivre Al-Kitenge, l'honorable, ainsi que l'honorable Masumbu. Je reviens à un autre extrait du discours du Premier ministre. Parmi les causes, il dit « La base fiscale n'est pas assez large, l'essentiel des activités informelles échappe au fisc. Un secteur aussi important, par exemple, que l'agriculture n'est pas fiscalisé. Le secteur des mines, principal moteur de la croissance, bénéficie des nombreuses exonérations. » Décidément, monsieur le ministre, l'informel est un secteur toujours difficile à maîtriser en RDC.
Merci, mon frère Alain. Je crois que pour répondre à votre question, le secteur informel dans notre pays nécessite un effort considérable de la part des dirigeants. Parce que c'est de là que trouve naissance ce que nous appelons le coulage des recettes publiques de l'État. Et également, je salue l'intervention de l'analyste Al-Kitenge qui parle d'un État. L'État ne peut être puissant financièrement que si chaque population contribue aux charges publiques. Mais dans notre pays, il y a un sérieux problème. Il vient à peine de parler également des entreprises minières. Ces entreprises minières bénéficient énormément d'exonérations. Et on ne comprend pas pourquoi ces entreprises doivent être considérées comme étant des extraterrestres pour ne pas payer les taxes, les impôts, les redevances de notre pays. Et il faudra mettre fin à cette pratique pour que l'État trouve les moyens de sa politique. Je tiens à vous signaler également que dans le secteur formel, comme si on prend le secteur minier, si vous entrez dans des foyers miniers, il y a tellement de moyens que devraient en principe à bénéficier l'État, mais qui sont récoltés par des individus. Il y a des papiers volants qui sont vendus dans des carrières comme étant des imprimés de valeur. Il y a également un problème au niveau des imprimés de valeur. Parce que la DGRAD devrait en principe mettre à la disposition de services d'assiette des imprimés de valeur en temps. Mais pour le moment, il n'y a pas de primeur de valeur. J'ai fait le tour ici, je suis allé à Isiro, à Dungu, à Arou, à Bounia, à Mongualou, partout on ne trouve que des papiers volants. Et tout cet argent entre dans les poches des individus. Donc il y a des personnes qui construisent des immeubles avec l'argent de l'État. Tout simplement parce que on n'a pas mis de l'ordre dans l'administration fiscale. Il faudra qu'on puisse mettre de l'ordre là-dessus, sans oublier également la militarisation de différents foyers miniers qui sont éparpillés dans les provinces. Les militaires ont pris comme activité principale l'exploitation minière et ils sont devenus également des commerçants. Et cette pratique doit être découragée ou punie par le gouvernement pour essayer de canaliser toutes ces recettes dans la caisse de l'État. Mais il y a également la multiplicité.
Honorable, Monsieur le ministre Paulin Audiane, le gouvernement finalement ne serait-il pas qu'en train d'accuser un peu les régies financières alors qu'on sait que dans certains rapports budgétaires à l'Assemblée nationale, on assiste à des dépassements budgétaires, à des sommes qu'on a difficile à justifier notamment.
Bon, le problème ne réside pas à ce niveau, mon frère Alain. Le problème qui nous préoccupe pour le moment, c'est de savoir comment mettre fin au coulage des recettes publiques. C'est ce qui est très important. Est-ce que les dépassements dont vous faites allusion peut intervenir à plusieurs niveaux? On peut se buter à un problème majeur, un problème qui n'était pas prévu. On est obligé d'aller au-delà de ce qui est prévu. Donc c'est tout à fait compréhensible. Mais on peut se demander des questions sur des dépassements qui sont occasionnés, par exemple, dans des secteurs les dépenses de prestations. Là, ce n'est pas normal, mais si ça concerne la population, ça concerne la vie de la nation.
Merci.
Moi, je trouve pas d'inconvénient là-dessus.
Merci.
Et l'essentiel, le plus important qui nous préoccupe ces jours, c'est de lutter contre la corruption, la fraude, la concussion, l'interférence, les mauvaises organisations qui caractérisent notre administration fiscale. C'est ce qui est très important et le combat doit être orienté sur tous les fronts.
Merci.
Et tout le monde doit s'impliquer dans ce combat, la population, l'État, donc tout le monde, la société civile,
merci,
tout le monde doit s'impliquer pour lutter contre ces fléaux.
Merci Monsieur le Ministre. Honorable Massoumbou, je le disais tout à l'heure, vous avez reçu des rapports d'exécution budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de problèmes, ne serait-ce pas l'État qui accuse les mêmes qui cherchent à résoudre le problème de coulage, qui serait en train pratiquement de faire les mêmes pratiques?
Je l'ai dit au début de mon intervention. Tout ce qu'il faut noter, c'est que au niveau des régies financières, comme tout le monde l'a dit ici, il faudrait nécessairement qu'il y ait un contrôle régulier. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons recommandé, même l'Assemblée nationale devrait nécessairement ne pas attendre le budget pour contrôler les régies financières. Il faut qu'il y ait des concertations régulières pour voir là où il y a des contre-performances au cours de l'année et pouvoir corriger, faire des remarques. Et ça, c'est d'une part. Mais je viendrai plutôt dans les secteurs principaux. Vous savez, on peut parler évasion fiscale, fraude fiscale, corruption, de tout ça, ce sont des mots. Mais il faudrait absolument, comme l'analyste l'a dit ici, Kitenge, il faut que les chiffres, les statistiques soient bien tenues. Quand on dit le PIB est à 20 milliards ou à 17 milliards, et sur base de ces chiffres-là, on doit arriver à déterminer combien l'État peut collecter. Ça, c'est d'une part. Nous avons parlé de mines ici. Quelle est la cause du fait que l'État ne perçoit pas les recettes au niveau de mines? Mais c'est tout simplement parce que le code minier tel qu'il a été élaboré en 2002... et jusqu'à ce jour, ne donnait pas beaucoup de possibilités à l'État de pouvoir récupérer son argent. Et il y a des exonérations qui sont là. Et c'est pourquoi nous avons recommandé au gouvernement que ce code minier au cours de cette année soit revu. Parce que maintenant, les 10 ans sont passés et il faudrait que les entreprises minières soient taxées correctement. Et pour pouvoir atteindre le niveau que la GECAMINE avait dans le temps.
Et nous avons aussi demandé au niveau du secteur hydrocarbures, par exemple, de négocier avec l'Angola sur le bloc 14 et 15. Ben, je crois que c'est en cours entre l'Angola et la République démocratique du Congo pour pouvoir exploiter collégialement le bloc 14 et 15 qui fera des recettes supplémentaires pour le pays. Et ça, c'est très important. On est de s'asseoir dans le bureau et il faut que ces ministres aillent dans différents pays comme l'Angola, négocier avec eux afin que la République recouvre correctement ses recettes.
Que faire pour combattre la fraude et autres causes des fuites des recettes publiques en RDC? Au terme de ces assises, les participants ont proposé des résolutions. Certaines ont été portées à la connaissance du public par le ministre délégué aux Finances. Patrice Kitebi a souligné que toutes ces mesures seront mises en pratique pour canaliser toutes les recettes au compte général du Trésor public. Paul Matendo.
Au sujet de la problématique de la gestion des administrations financières, les participants ont suggéré par exemple la mise en place d'un dispositif légal et opérationnel des sanctions appropriées en vue de renforcer l'éthique et les civismes fiscaux et de décourager la fraude. Ils ont également noté la mise en place d'un réseau informatisé du système douanier national avec les systèmes étrangers afin de mieux gérer les transits des marchandises. La problématique de la perception des impôts, droits, taxes et redevances était aussi au centre des réflexions des participants. C'est dans ce contexte qu'ils ont recommandé la mise sur pied d'une stratégie de sensibilisation et de vulgarisation de lois et réglementations fiscales, l'utilisation du guichet unique de la création des entreprises dans le processus d'identification des contribuables, ainsi que l'application stricte de la législation fiscale à tous les niveaux afin d'éradiquer la notion des privilégiés. Abordant la question de la saisie et la gestion de l'information fiscale et douanière, ainsi que la lutte contre la fraude, des mesures ont été proposées telles que l'extension de la couverture du niveau d'identifiant fiscal et la mise à jour permanente du répertoire des contribuables. Toutes ces recommandations permettront au gouvernement d'élaborer un plan d'action en vue du suivi et évaluation, a indiqué Patrice Kitebi.
Merci Paul Matendo. Honorable Masumbu, il y a Elite Ilunga Pundu de Kolosio Katanga qui dit, comme contribution à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, je pense que l'État doit d'abord exister dans tous et partout, lutter contre l'impunité qui caractérise le pouvoir, établir les mécanismes de suivi et qu'il y ait existence d'une véritable cour des comptes qui soit impartiale et indépendante. Jules de Matadi au Bas-Congo, l'impunité favorise la fraude. Pour la combattre, il faut instaurer un réseau informatique entre les services émetteurs des titres et la Banque centrale pour apurer les titres émis. Honorable, parmi les solutions, vous avez commencé par parler déjà de la justice qu'il fallait renforcer dans la première partie.
Mais exactement. Mais je crois que Monsieur Kitenge l'a dit que actuellement, avec la technologie informatique, il faudrait pas que l'État soit le dernier à s'informatiser. Et donc, les chiffres qui ressortent doivent être suivis régulièrement au jour le jour. Il faut qu'il y ait un tableau de bord, en appuyant sur un bouton, vous avez la situation qui se passe à Kolwezi, qui se passe à Matadi, qui se passe à Butembo, etc. Et mais ce n'est pas ça, c'est ce qui s'est fait régulièrement. L'État n'a pas ce tableau de bord d'une manière tout à fait automatique. Donc, il faudrait attendre plusieurs jours pour collecter les chiffres. Et à ce moment-là, on ne le sait pas. Oui, je l'ai dit, il faut nécessairement que la justice joue son rôle. Absolument. Et la justice, il faut que les gens aussi soient formés pour pouvoir contrôler régulièrement la Cour des comptes. C'est bien, mais il vient a posteriori, c'est un contrôle a posteriori. Il faut un contrôle a priori, c'est-à-dire au moment où l'opération se passe, il faudrait que immédiatement qu'on puisse saisir. Mais c'est là le problème.
Mais on a l'impression que quelquefois au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, il y a, on laisse passer certaines choses. C'est l'impression que ça donne quelquefois.
Non. Au contraire. Tous les ministres passent devant le Parlement, nous les entendons, surtout pour ceux qui réalisent des recettes. Nécessairement, ils sont interrogés par les députés, un à un, et d'une manière tout à fait détaillée. Et ce que je vous dis ici, ça a été déjà posé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Commission économique et financière, et ça s'est fait. Donc, le ministre passe un interrogatoire un à un, et ils nous promettent les objectifs au niveau de l'année suivante.
Et le problème, c'est toujours au niveau des sanctions aussi. Alkitenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bruxelles en Belgique.
Professeur Victor Okombe de Bruxelles en Belgique. La lutte contre la fraude ou la corruption est, à mon avis, un sérieux problème qui devait être l'urgence de l'action gouvernementale. Elle devait partir de la moralisation de la vie politique, de l'éducation à la morale de tous gestionnaires de la chose publique en particulier et de toute la population en général. Deuxième action, la justice. La justice a un grand rôle à jouer dans la lutte. Je suggère que soit créé chez nous un tribunal spécial qui s'occuperait de la lutte contre la corruption et la fraude. On ne peut pas combattre ces fléaux tant que règne l'impunité. Ces gens sont connus et il ne faut pas beaucoup de séminaires, beaucoup de réunions, beaucoup de discours pour les amener en justice, répondre de leurs actes.
Moraliser la vie publique à Kitenge, c'est un concept qui est de plus en plus en vogue dans le monde actuellement.
Vous avez raison, le métier de politique est un métier à risque. Mais ce que moi j'ai envie de dire va au-delà de ça. L'État, il faut déjà qu'il existe. Le nôtre est trop faible. Il doit fonctionner sur toute l'étendue de la République, parce que pour l'instant, il ne fonctionne pas sur toute l'étendue de la République. Alors moi, je dis qu'il faut un nouveau pacte pour la République. Il faut du civisme et de la bonne citoyenneté. Tout le monde, par exemple, doit contribuer, en commençant par les politiciens. Vous savez, par exemple, que les députés de notre pays ne payent pas leur impôt sur les revenus. C'est complètement inacceptable. Il faut donner l'exemple. L'État est quand même sous-équipé aujourd'hui. Il est injuste et asymétrique. L'État est terriblement frustrant par rapport aux citoyens qui sont loin de la capitale ou loin des grands centres. Et il faut se rendre compte que l'État est devenu mercenaire dans son propre pays. La fonction politique a perdu le respect. Aujourd'hui, quand vous dites politicien, les gens disent cohabitation avec la mafia, l'enrichissement illicite et la privatisation des postes de l'État. C'est des choses que nous devons corriger le plus rapidement possible. Nous devons recréer une confiance envers ceux qui nous dirigent. Et pour le faire, il est extrêmement important que les opérateurs économiques sachent qu'ils ont en face d'eux des gens qui représentent la population et qui défendent la population. Ça ne semble pas être le cas aujourd'hui. Les opérateurs économiques versent dans la mafia, facile, avec la complicité de ceux qui sont censés les contrôler, ça veut dire les politiques. Ils maquillent tout à l'aide de ceux qui sont censés les contrôler, ça veut dire les régies financières. Matata Premier ministre à l'époque, non plutôt ministre des Finances à l'époque, a cru bon de signer un pacte de doublement des recettes avec les régies financières, oubliant les entreprises. Je dis encore aujourd'hui, il est très important d'avoir un pacte à trois pieds. D'un côté, l'État et ses différentes régies. De l'autre côté, les entreprises privées. Et le troisième pilier, c'est la communauté. J'explique. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer que de bonne foi, les opérateurs économiques qui ont longtemps triché et caché se dévoilent. Il faut donc faire un pacte avec eux. Ce pacte doit être reposé sur le fait que on accepte une certaine amnistie. Le passé, le comportement des opérateurs économiques est justifié par les faiblesses de l'État. Et aujourd'hui, si l'État dit nous allons faire les choses différemment, il faudrait qu'on s'entende sur comment on gère le passif. Parce que le passif, il ne salit pas seulement les opérateurs économiques, il salit également les opérateurs politiques. Est-ce que nous avons besoin de ressasser toute notre saleté? La réponse est peut-être pas non. Et moi je dis aujourd'hui, il est important qu'on mette nos problèmes sur la table. Il faudrait que la République ait un engagement qui permet à tout le monde de jouer son rôle. Le premier qu'il faut blâmer aujourd'hui, c'est le citoyen. Il s'est complètement désintéressé de l'État. Je voudrais rappeler à tout le monde que quand on parle de Transparency International, quand on parle de Global Witness, quand on parle de Greenpeace, qui nous aide aujourd'hui à surveiller l'État dans son fonctionnement, ce sont des organisations citoyennes.
Alkitenge, il y a Prof. Sulus qui nous écrit de Moba au Katanga qui dit « Pour moi, il est difficile de lutter contre la corruption car un agent qui détourne à Kalemi, par exemple, au lieu de le sanctionner, on le mute vers Lubumbashi. » Tsongo, cet internaute, dit « En RDC, ces assises n'auront pas un impact visible, d'autant plus que les fraudeurs restent toujours impunis vis-à-vis de leurs actes. En plus, nos gouvernants sont également les cibles de cette mafia. La solution serait d'arrêter purement et simplement à les intéresser, comme l'avait mentionné le chef de l'État, Joseph Kabila, en 2006, lors de son adresse à la nation, finie la récréation. Finalement, est-il facile de récréer cette confiance entre les gouvernants et les gouvernés dont vous parlez?
Cette confiance, il faut l'exiger. Nous élisons des députés, ils deviennent de par des mécanismes politiques des ministres et ils prennent des fonctions dans la territoriale. Nous devons rester en contact permanent avec eux, nous devons rester exigeants avec eux. je vous disais encore tout à l'heure, Transparency International, Doing Business and whatever, tout ça, c'est des entités citoyennes. Nous devrons ici avoir des associations qui surveillent le comportement de l'État et qui surveillent le comportement de ceux qui nous dirigent, y compris de ceux qui sont aux commandes des institutions publiques, à savoir les régies financières. Il est important que nous apprenions à briser le silence. Le silence a coûté trop cher à ce pays. La corruption a coûté trop cher à ce pays. Et je pense que si nous reconnaissons notre passé et nous l'assumons ensemble au travers de ce que moi j'appelle tout le temps un dialogue de société, il peut être possible de jeter de nouvelles bases.
Monsieur le ministre Paulin Audiane, il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Revenons à l'aspécifisme dont a parlé Alky Tengue. Il faudrait que la population se réveille. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci, je crois que la République appartient à tous les Congolais. Et tout au début de l'émission, j'ai pu souligner que la population doit jouer son rôle. Parce que la population, c'est elle qui est touchée plus par la pauvreté qui gagnerait notre pays. Et toutes les corruptions, toutes les fraudes qui caractérisent nos différentes régies financières ont des retombées sur notre population. La raison pour laquelle nous disons que notre peuple doit se réveiller et elle ne doit pas croiser les bras pour dire que non, voilà, ça c'est un atelier de plus, ça ne sert à rien, il y a la fraude, il y a la corruption. La population doit se réveiller, la population doit dénoncer, la population doit s'élever contre cette pratique qui met notre pays complètement à genoux. Et on ne peut pas comprendre que... Pardon?
J'allais dire en guise de conclusion déjà parce qu'il nous reste au moins de 4 minutes.
Bon, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que tout ce que nous avons eu dans cet atelier, les recommandations et qu'en sort, l'essentiel ici, c'est de demander à l'État de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire ici, mettre fin à la corruption et demander aux cours et tribunaux de jouer leur rôle en sanctionnant sévèrement ceux qui pratiquent ce comportement de mauvais goût et qui met notre pays à genoux. Sans mettre fin, je dirais, sans que si la population et si l'État et si les dirigeants ne se mettent pas d'accord pour lutter contre la corruption et contre la fraude, rien ne peut sortir de notre pays.
Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable Massoumbou, Alky Tengue insiste sur le fait que vous, les députés, vous devriez également être un exemple, payer vos impôts.
Bien sûr. Dans le budget de l'État, les impôts des députés sont bien repris correctement. Il peut aller les lire. Et il ne s'agit pas seulement des députés, mais il y a aussi les ministres nationaux, les ministres provinciaux et tout le monde, même au niveau des entreprises publiques, il y a des gens qui ne payent pas correctement leurs impôts. Donc, il ne s'agit pas seulement des députés ou des sénateurs, mais il s'agit de tous les agents publics. Ils doivent payer les impôts. Et nous, au niveau de l'Assemblée, nous sommes bel et bien repris dans le budget et dans les impôts de l'État. Ça, c'est d'une part. Et la société civile, quand ils parlent de transparency, ben effectivement, ils doivent venir, ils viennent à l'élaboration du budget. Un budget ne peut pas avoir une certaine vocation internationale si la société civile ne vient pas. Et ils viennent avec nous, nous analysons le budget ensemble. Et donc, ce que je peux faire comme conclusion, c'est que le gouvernement doit faire un effort pour essayer de, sur base de lois que nous les mettons à leur disposition, de pouvoir collecter correctement toutes les recettes de l'État et de trouver d'autres recettes dans ce que j'ai développé au cours de l'émission.
Alky Tengue, arriverons-nous finalement un jour à mettre fin à la corruption, à l'évasion fiscale en RDC?
Oui, je crois que nous y arriverons. Seulement, il faudra...
À quelles conditions?
Il faut cerner les citoyens et il faut les sécuriser. Aujourd'hui, les gens se battent pour se défendre tout seuls au lieu de laisser l'État les défendre. Le filet social est troué. La sécurité sociale est complètement perdue. Autre chose, il nous faut une discipline collective avant qu'elle ne devienne individuelle.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Restez branchés sur Radio Capi. Au revoir.